La semaine dernière, l'administration de Valérie Plante à Montréal a dit qu'elle voulait vraiment réduire, interdire des articles à usage unique en plastique à Montréal. C'est un projet de règlement qui va être annoncé au printemps prochain, en 2020. Bon, ça va dire les sacs, les barquettes, les pailles, les gobelets, les contenants, ustensiles jetables. Tout ce qui est en plastique, là, on veut vraiment, vraiment bannir le plastique de nos vies. Puis on sait pourquoi, parce que il y a quasiment plus de plastique que de poissons dans nos océans. Sauf que du plastique, ça se mange pas, hein? Fait qu'on peut pas se nourrir avec ça. Fait qu'il y a quelque chose là qui nous renseigne beaucoup sur ces gestes qu'on va devoir poser. Et sincèrement, on a demandé à Sidney Ribault, qui est cofondateur et directeur général d'Équiterre, d'être avec nous aujourd'hui, parce qu'il sera bientôt en poste comme nouveau directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Merci d'être là, Sidney Ribault.
Merci de l'invitation.
Quand on s'est dit qu'on allait faire une émission ce matin où on allait parler vraiment des sinistrés, pour leur rendre hommage aussi en geste de solidarité. Là, je vous l'avoue, on avait vraiment ce désir-là, nous, ce matin, avec l'équipe. Mais on s'est dit, on va garder Sidney parce que, franchement, c'est directement dans votre talle, ce Sidney. Parce qu'on parle ici de changement climatique. On parle d'événements comme ça nous paraît quasiment surnaturel, ce qui se passe avec les inondations. Mais oui. On a eu 2011, on a eu d'autres avant. Là. Gilles Brien nous disait, ça fait 400 ans qu'on est inondés, sauf qu'on n'a pas de mémoire. 2011, 2014, 2017, là, 2019, puis à chaque fois, c'est pire. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui fait... Est-ce qu'on, quand vous regardez ça, vous, comme écologiste, est-ce que vous dites, elle savait, je l'avais dit? Êtes-vous un peu comme ça ou comment vous voyez les choses aujourd'hui? Là?
Ben, j'avoue qu'il y a une petite part de ça, c'est-à-dire que ça fait quelques décennies que des scientifiques se lèvent la main pour dire les changements climatiques vont nous amener toutes sortes de problématiques. Ils nous disent que c'est le plus grand défi auquel l'humanité a jamais fait face. Ouais. Et pour raison. Alors là, ces temps-ci, on en voit un petit exemple. Hein. C'est un tout petit exemple de les changements climatiques qui ont un impact, qui viennent rendre, parmi plusieurs facteurs, des inondations pires que ce qu'elles auraient été autrement, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est intéressant, je pense, dans les inondations, c'est aussi que lorsqu'on regarde les endroits qui sont inondés, c'est un peu, on parle à la fois d'enjeux qui sont reliés à notre défi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc, plus on réduit les émissions, plus l'adaptation va être facile parce que les changements climatiques vont, la température va augmenter moins. Et après ça, de toute façon, il faut s'adapter. Alors, quand on regarde les inondations, bien, on se dit... Qu'est-ce qu'on a fait? On a basé un développement autour de la voiture, autour de routes qu'on recouvre d'asphalte, d'aménagements, d'entrées, de stationnements.
Du gazon jusqu'au bord de l'eau.
Donc, on enlève la végétation, puis on enlève les espaces poreux qui permettent qui sont nos outils pour de résilience face à des inondations. Donc, c'est sûr que quand l'eau ne peut pas aller nulle part,
finalement.
Ben oui, ouais. si on enlève tous les endroits où qui sont poreux et que l'eau peut que la terre peut absorber l'eau, ben c'est sûr que ça rend l'inondation bien pire. Alors donc, on est en train devant les inondations, on peut penser à la fois aux solutions. Qui sont d'avoir des routes plus petites, d'avoir des aménagements qui sont plus végétalisés, d'avoir... Alors ça contribue, oui, à réduire les gaz à effet de serre, mais en plus, ça va nous aider pour l'adaptation. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions, je pense, qu'il va falloir se poser suite à des événements comme ça.
Bon, on a des nouvelles discussions qu'on n'avait pas, Sidney Ribault, avant. Là, comme là, maintenant, on parle de nouveaux bassins de rétention d'eau qu'on veut peut-être construire à Montréal. Il y a quelques jours, quand même, Valérie Plante, la mairesse, votre nouvelle patronne, a quand même mis Montréal en état d'urgence. On est toujours en état d'urgence ce matin à Montréal, n'est-ce pas?
Oui, oui. Tout à fait.
Donc, c'est quand même une situation. Imaginez le Sainte-Marc qui vive, que ça arrive à Montréal, que ça arrive à Québec, ça arrive... Gilles Brien disait tout à l'heure avec justesse, notre développement industriel et social s'est fait autour de cours d'eau au Québec. Là. Oui. On n'a qu'à regarder la carte. Là. On voit le fleuve Saint-Laurent, tout le monde habite juste là, des deux bords des rives. Fait qu'il y a quelque chose de... On a beau tirer la pierre, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent « Ouais, moi, je veux pas que mes impôts servent à rembourser du monde qui sont construits sur le bord de l'eau. » J'ai envie de dire, ben là, à ce moment-là, on veut-tu que nos impôts aillent aussi à rembourser des permis de chauffeur de taxi? On veut-tu... Cette réflexion-là, là, de « je veux pas que mon argent serve à ça », j'ai un peu de la misère avec ça, personnellement, mais surtout qu'on l'a tous permis, ça, que ces gens-là se construisent là. Les villes l'ont permis... On le permet encore.
Ça devrait, ce genre d'événement devrait nous amener à repenser toutes les règles qui encadrent l'aménagement. Donc, lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, puis ça, c'est beaucoup les municipalités, là, on a une loi qui dit souvent la municipalité peut, la municipalité pourrait, la municipalité devrait. On n'a pas beaucoup de mots prescriptifs dans cette loi-là. Alors qu'on devrait, dire, écoutez, il y a des limites à construire dans des zones inondables et on devrait simplement dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Évidemment, il y a des enjeux d'information reliés à ça. On doit premièrement outiller les municipalités pour qu'ils puissent le savoir de façon plus exacte et mettre à jour cette information-là avec les changements climatiques parce que ça change. Alors, les inondations qui venaient une fois par 100 ans sont maintenant une fois par 10 ans. Les inondations qui étaient millénales, on l'a vu là, sur la rivière Rouge, le fameux barrage là, que finalement, je pense, n'a pas cédé, mais qui était construit pour une inondation millénale, donc une fois par 1000 ans, et qu'on a dépassé ce seuil-là. Alors écoutez, on est sur des changements qui vont nécessiter non seulement qu'on tienne à jour de l'information pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, mais après ça, qu'on prenne les bonnes décisions et que les municipalités se fassent dire, dans certains cas, par Québec, écoutez, il y a des choses où vous pouvez décider puis il y a des choses où vous ne pouvez pas décider parce que construire en zone inondable, il faut arrêter ça, là, faut arrêter ça tout de suite. Ça n'a aucun sens.
C'est-tu la faute des gens d'habiter là?
Je pense pas qu'il faut mettre la faute sur les individus. Quand on achète une propriété, on a tellement de choses à penser. Est-ce que c'est une zone inondable? Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui regardent ça. Beaucoup de monde ne penserait pas à cette question-là. C'est le genre d'information que ça doit venir de la science. Puis les élus et les gens qui adoptent les lois doivent se baser sur la science pour adopter ces lois-là. Alors, il faut zoner des endroits. Puis après ça, bien, je pense qu'il faut commencer à sérieusement réfléchir à des pratiques d'aménagement qui vont nous permettre de mieux gérer des événements comme ça. Encore une fois, toute la question de les espaces végétalisés ou pas, les espaces asphaltés. Pourquoi dans des zones résidentielles, on a des rues résidentielles qui ont une largeur pour faire passer deux semi-remorques, trois semi-remorques, une à côté de l'autre, alors qu'on pourrait avoir des rues beaucoup plus petites, ce qui veut dire plus d'espace végétalisé, par exemple. Ouais. Pourquoi on permet de construire des entrées pour des véhicules dans des maisons qui sont énormes? C'est des quasi-stationnements commerciaux pour une maison unifamiliale où il y a deux ou trois personnes qui habitent.
Pourquoi on fait ça, d'après
Honnêtement, je pense qu'il y a une question de culture là-dedans, il y a une question
d'habitude. Parce qu'on a une industrie d'asphalte aussi, peut-être?
Il y a une industrie d'asphalte qui encourage les gens à faire des grosses entrées. Mais à un moment donné, ça se réglemente aussi. Tout comme on réglemente toutes sortes de choses sur le bâtiment, pourquoi on ne pourrait pas réglementer la largeur des entrées? C'est sûr que si dans un quartier, il y a quelques milliers de maisons qui ont chacune une entrée, puis on réduit cette entrée-là de moitié, bien, ultimement, tous ces petits gestes-là, dans un contexte d'inondation, vont aider à ce que la terre absorbe l'eau.
Mais Sidney Ribault, je rappelle, vous êtes cofondateur, directeur général d'Équiterre et bientôt nouveau directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Il y a bien des gens qui vous écoutent, Sidney, puis qui doivent dire... Bon, là, il vient de parler des gaz à effet de serre, les inondations, les changements climatiques. C'est quoi le rapport entre tout ça? Bien, il y a encore des gens qui doutent de ça, finalement, qui doutent du lien entre ce qu'on vit là, depuis quelques jours et depuis quelques années de façon récurrente et les changements climatiques.
Oui, tout à fait. Et je pense
comment leur faire comprendre là, qu'il y a un lien direct?
C'est une bonne question. Moi, ça fait longtemps que je dis, on n'a pas, vous allez voir, je vais faire un petit détour, mais on s'est pas attaqué au tabagisme en quadruplant le prix des paquets de cigarettes et en interdisant de fumer presque partout jour 1. Hein, il y a 30 ans ou il y a 40 ans qu'on a commencé ça. On a commencé par mettre une petite taxe, on a commencé par mettre des petits règlements qui restreignaient un peu. Et surtout, on a fait des campagnes de sensibilisation et des campagnes d'éducation pour dire aux gens que fumer, c'est pas bon pour la santé.
C'est ça, j'allais vous le dire. C'est surtout le fait que les gens meurent du cancer du poumon. C'est ça, tout le monde a eu peur d'attraper le cancer.
Et ça, on l'a fait et on continue à le faire en 2019, même s'il y a quoi, une vingtaine, 20%, 25% des gens qui fument encore. On continue ces campagnes de sensibilisation. Alors que sur la question des changements climatiques, Où la campagne de sensibilisation et d'information du gouvernement là-dessus présentement, des gouvernements? Présentement, on peut faire toute notre scolarité et avoir aucune Aucun cours sur la question des changements climatiques et de l'impact sur l'environnement, ou à peu près. Évidemment, il y a beaucoup d'écoles qui le font de façon volontaire, beaucoup de professeurs qui font des choses. Mais ce que je veux dire, c'est...
On va faire un travail ici et là, mais... Ouais.
Alors, on n'a pas systématisé une campagne pour dire, il faut que les gens comprennent c'est quoi le problème, parce qu'effectivement, quand tu ne comprends pas le problème, de dire voici une solution qui va te coûter de l'argent ou qui va être un petit peu plus compliquée ou qui va changer tes habitudes, bien, c'est plus difficile à accepter. Alors, il faut faire ce travail de sensibilisation-là et d'éducation pour que les gens comprennent. Puis après ça, qu'ils comprennent que la vaste majorité des solutions qu'on doit mettre en œuvre rapidement ont généralement un bénéfice aussi, soit pour la santé, soit pour le portefeuille. Alors, ça aussi, il faut en parler.
Oui. On va s'arrêter ici. Ça me permet de dire à l'avance, mais je vais vous l'annoncer ce matin, moi, je suis en train de produire une série qui s'appelle « Méchante météo » qui va être sur les ondes de Canal D cet automne. Et vous allez voir là-dedans, là, je pense que ça va faire partie de ce que vous venez de dire, Sidney Ribault. C'est une espèce de travail d'éducation qu'on va faire, certainement en tout cas d'information, puisqu'on va rappeler aux gens que les changements climatiques sont bien présents et que la météo, la méchante météo qu'on vit au Québec depuis des années, elle fait beaucoup de dommages. Et c'est parfois clair. Même, il y a des gens qui en meurent. Et ça, on Perfect. A tendance à oublier ça. Heureusement, cette fois-ci, avec ces inondations, on arrive à passer à travers ça sans grave accident, sans qu'il y ait mort d'homme. Mais il y a quand même des gens qui, physiquement, vont en être malades. Et puis, mentalement, on l'a vu tout à l'heure avec notre première invitée, Chantal, qui ça fait 2 ans qu'elle prend des médicaments parce qu'elle fait un burn-out. Et entre autres, là, dans un de nos documentaires de cette série-là, Méchante météo, on rencontre des gens qui vivent encore aujourd'hui très difficilement, qui sont carrément en choc post-traumatique. Donc, la météo nous influence. Puis, si on ne comprend pas qu'il y a un lien avec nos habitudes de consommation, et on va y venir, au plastique, à tout ça. Fascinant parce que dans votre titre, ça dit « transition écologique et résilience ».
Oui, mais la résilience, c'est beaucoup l'adaptation au changement climatique. Ouais. C'est beaucoup de cela qu'on parle. Et lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique, effectivement, on parle de trouver des façons. Tu sais, on parle des inondations, on a parlé de végétalisation des espaces.
Ouais.
Quand on parle des événements de chaleur extrême l'été, par exemple, bien là, il faut aussi penser comment on aménage les villes, puis comment on construit les bâtiments, puis on pense les bâtiments.
Tout à fait.
Pour que lorsqu'il y a des moments, vous parliez de décès, bien il y en a là, des décès quand il y a des périodes de chaleur extrême. Même
on parle
d'îlots
de chaleur aujourd'hui. On a de la misère à croire ça, mais le Québec, entre autres, en particulier, on peut passer, il y a des journées où il fait moins 40 avec le facteur vent l'hiver.
Ouais.
Puis l'été, là, dans certains îlots de chaleur, il fait plus 40.
Ouais.
Imaginez-vous ça, un humain qui vit 80 degrés. Son corps, là, il passe de moins 40 à plus 40. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve qu'on est vraiment fait fort.
Ouais.
Vraiment, vraiment, vraiment fait fort.
Mais évidemment, il y a des gens qui ont toutes sortes de défis de santé, etc. Et eux, on a besoin de penser à des espaces frais pour eux. Alors, c'est tout ça aussi, la résilience, c'est s'adapter à ces changements qui vont venir.
Est-ce que vous croyez que les inondations qu'on voit là, depuis les derniers jours, mais qu'on a vues dans les années précédentes, croyez-vous qu'il y a un lien avec les changements climatiques? Je vous teste là-dessus. J'ai hâte de vous entendre. 514-790-9850 et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Ces fameuses inondations, croyez-vous que ça soit directement une conséquence du changement climatique qui est en train de se jouer malheureusement contre l'humanité, parce qu'il y a nous au Québec, mais il y a tout le reste de la planète qui vit aussi des grands bouleversements. Est-ce que vous y croyez, vous? Parce que là, on parle de croyances. Hein, tu as deux clans. Tu as le monde qui croit que le changement climatique, ça existe, puis tu as encore du monde qui ne croit pas ça. Je suis en compagnie de Sidney Ribault, qui est cofondateur, directeur général d'Équiterre, qui s'époumonne depuis combien d'années?
25 ans.
Et qui sera bientôt le nouveau directeur du bureau de la transition écologique et de la résilience. Puis c'est drôle parce que ça fait terre. Transition écologique et résilience, ça fait terre.
C'est vrai.
Comme notre planète. C'est-tu pensé, ça?
Oui.
Vous y avez tout pensé à ça?
Bien, en fait, vous me le soulignez maintenant. Là. C'est vrai que c'est bien pensé comme titre.
On a Michel avec nous. Bonjour, Michel. Vous y croyez au lien entre les inondations, justement, et les changements climatiques?
Oui, tout à fait. Puis on le remarque encore ce printemps avec ce qui arrive. C'est des phénomènes un peu extrêmes.
Ouais.
Et c'est sûr qu'on a eu un hiver qui a été très dur. Puis moi, je m'attends à ce qu'on ait un été qui soit aussi dur, en fait, de chaleur, par exemple. T'sais. Parce que même l'été passé qu'on a vécu, de plus en plus, quand il y a des orages, c'est des orages qui sont violents, qui sont forts.
Oui.
On a même eu des tornades.
Hey, les tornades, c'est de pire en pire.
Oui, absolument. Oui. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup peur de ça parce que je me dis, c'est ce qui se passe en ce moment.
Et cette crainte-là que vous avez, Michel, qui est nouvelle, hein, j'imagine, comme nous tous.
C'est assez récent. Oui, oui. J'emploierais même le terme climato-anxieux dans mon cas.
De plus en plus de gens le sont, effectivement. Moi, je le suis, comme vous, Michel. Est-ce que ça vous incite donc à changer vos comportements?
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, par exemple, on parle de l'usage du plastique à usage unique. Je suis quelqu'un qui est sensibilisé à ça puis qui essaie de faire attention par rapport à ça, justement, là, pas créer de vidange avec ces matériaux-là. Là, juste. Puis, il y a juste une chose que je voulais rajouter, je comprends pas, moi, dans le coin où j'habite, à Laval, c'était anciennement un rang. Et puis maintenant, je comprends pas que les villes ne soient pas plus sévères en fait de réglementation pour les entrepreneurs qui font de la construction. Sur ce rang-là, c'était tout boisé, puis c'était des terres. Maintenant, c'est rasé complètement pour construire des édifices à condos.
Ben, j'ai un auditeur qui... Encore. Ben oui, vous avez tellement raison de dire ça, Michel, et j'ai peut-être votre réponse, en tout cas un début d'hypothèse qui est amené par Jean-Paul ici qui m'écrit. Il dit, il ne faut pas oublier que Gilles Vaillancourt, tout le monde s'en souvient, l'ancien maire, qui a accordé des permis de construction contre des commissions, des millions de dollars pour des immenses tours à condos en bordure de la rivière des Prairies voisins de la A15. Il y a eu du remblayage, ça a grandement réduit la largeur de la rivière, le débit potentiel et la capacité de réduire efficacement le niveau du lac des deux montagnes. Il y a des exemples, nous dit Jean-Paul, de contracteurs qui ont remblayé sournoisement, sans autorisation, avec des surplus de pierre et de béton un peu partout sur les berges de la région de Montréal. Ça, c'est ce que nous donne Jean-Paul comme information. Fait que je pense que c'est ce que Sidney disait tout à l'heure, Sidney Ribault, que vous disiez
On a tendance souvent dans des projets comme ça, et on a participé à tellement de débats publics sur des projets de construction où tu soulèves toutes sortes d'enjeux environnementaux, dont ceux-là, de dire on construit trop proche de la rivière, on construit en zone inondable, on construit dans des marais, dans des zones écologiques sensibles, et on se fait servir l'argument, oui, mais de développement économique, on va pas arrêter le développement économique pour une grenouille ou pour un marais ou pour... Et là, tu dis, ben dans le fond, finalement, là, ce qu'on voit, c'est les conséquences économiques d'avoir fait des mauvais choix au niveau de l'aménagement. C'est-à-dire que ça, on va dépenser, vous en parliez en début d'émission, on va dépenser des millions de dollars pour compenser des gens qui ont acheté des maisons ou qui ont fait construire des maisons dans des endroits où on n'aurait pas dû.
Leur permettre de le faire.
Ben oui, ouais. Tu sais.
Mais à partir du moment où on les laisse faire, qu'on leur donne la possibilité, c'est une responsabilité, donc, de la ville. La ville, c'est le gouvernement, là.
Tout à fait.
Et le gouvernement, c'est nous. Donc, par extension, on n'aura pas le choix de contribuer, là.
Tout à fait.
À les dédommager.
D'où le fait qu'il faut se doter de règles claires dans des cas comme ça. L'exemple que donne l'auditeur, de dire pourquoi on a rasé des forêts dans des endroits proches d'un lac, alors qu'on aurait peut-être dû les conserver, justement, ben c'est un point important.
Marie-Claude m'écrit, est-ce que votre invité pense vraiment que d'avoir des espaces plus poreux aurait empêché les inondations? Elle dit, le problème, c'est Hydro-Québec qui ne baisse pas ses barrages l'hiver. C'est ça le problème. Lâchez-moi que l'environnement, il pleut, il neige et Hydro veut remplir ses réservoirs. C'est intéressant comme commentaire. Je l'ai entendu beaucoup ce matin. Il y avait des gens dans la première heure de la discussion qui disaient un peu la même chose, que c'était Hydro le problème avec les barrages. Pouvez-vous nous en dire là-dessus?
Ben, écoutez, je pourrais pas vous parler d'hydro et des barrages en particulier. Honnêtement, j'ai pas cette expertise, mais ce qu'on sait, c'est que la sévérité des inondations est due à plusieurs facteurs. Les changements climatiques, ça en est un. C'est pas le seul facteur qui fait en sorte que les inondations sont plus sévères et ont plus d'impact. C'est clair que lorsqu'on parle des changements climatiques, l'auditeur y faisait référence, on parle du fait que dans certains endroits au Québec, il pleut plus, il neige plus à cause des changements climatiques. Ça, c'est documenté. Et aussi, les changements climatiques amènent des événements extrêmes. Donc, lorsqu'il pleut beaucoup. Lorsqu'il neige, il neige beaucoup, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a des événements extrêmes comme les inondations qu'on est en train de vivre.
Les grands vents aussi. Tout à l'heure, Gilles Brien, pendant la pause, m'expliquait que le vent, les grands vents qu'on connaît aujourd'hui le plus fort, vous parliez d'extrême, le vent extrême aussi, ça a un effet sur le niveau de l'eau. Ça pousse l'eau aussi, puis ça pousse les précipitations. On a Olivier avec nous. Bonjour, Olivier. Est-ce que vous y croyez au lien entre inondations telles qu'on les vit en ce moment et changement climatique?
Oui, j'y crois, Isabelle. Bonjour.
Bonjour.
Et aussi, vous parliez de surface poreuse tantôt.
Oui.
Moi, j'habite dans Longueuil, dans le Vieux-Longueuil, puis on a, dans un condo, on a refait le stationnement parce que l'asphalte était vraiment défoncé. Puis moi, j'ai suggéré, faites livrer deux voyages de Garnotte trois quarts clairs, ça va être excellent, ça coûte pas cher, ça va être too much. Interdit par règlement municipal, on est obligé de faire les driveways en asphalte.
Voilà.
Sauf les droits acquis des si ça fait 35 ans que c'est construit et plus, puis que ça n'a jamais été asphalté, qui est toujours en garnotte, vous avez le droit. Mais là, non. Alors, voilà.
C'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple.
C'est un règlement municipal de la ville de Longueuil. Puis on est sur le bord du fleuve, entre vous et moi.
C'est un bon exemple d'une règle qui est imposée. Là, dans ce cas-ci, c'est une règle qui est imposée à des citoyens qui va dans le mauvais sens.
Dans le mauvais sens.
Alors, exact. La règle force donc plus de production d'asphalte qui émet des gaz à effet de serre. Fait que ça contribue au problème. Et ça enlève la possibilité de créer des endroits poreux qui vont pouvoir nous aider dans des cas de...
Mais il n'y a personne dans les villes là, qui le sait, ça, puis qui
C'est-à-dire que, et je pense que c'est pour ça que Valérie Plante crée ce nouveau poste que je vais occuper. C'est, on le sait, il y a des gens dans les villes qui le savent, mais malheureusement, ils ne sont pas toujours en lien avec les autres qui font les règles. Les liens entre ces règles-là, puis l'environnement, puis l'adaptation, puis la résilience, puis la préparation de la sécurité civile pour des événements comme l'inondation, ne se fait pas tout le temps. Et je pense que c'est ça l'idée à la Ville de Montréal de créer un poste spécifiquement là-dessus. Dans le fond, mon travail, ça va beaucoup être de m'assurer de la cohérence, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est de la cohérence entre les règles et les objectifs environnementaux qu'on se donne, d'être sûr que ce que fait le transport, ce que fait l'urbanisme, ce que font les grands parcs, c'est en cohérence avec les objectifs qu'on se donne au niveau environnemental.
Mais là, Montréal puis Longueuil, c'est proche, là?
Tout à fait.
Il y a juste un pont. Vous allez parler.
On va se parler.
J'espère aux gens de Longueuil, puis à la mairesse, puis être capable de lui dire que peut-être qu'il faudrait arrêter ça, les grandes baudrées d'asphalte, bord en bord, là, des entrées de garage. Là.
Il y a des chances qui sont peut-être, les élus ne sont même pas au courant. C'est des règles qui sont là depuis très longtemps, qu'on a mis en place des fois dans les années 50, 60, 70, alors qu'on se disait, c'est plus propre. Ouais. Hein, on se disait ça, c'est plus propre l'asphalte. Mais là, les connaissances ont évolué, puis il faut changer nos façons de faire.
Sidney Ribault, vous reviendrez nous voir. On parlera la prochaine fois plus spécifiquement du plastique. Il y a tellement à dire pour essayer de bannir le plastique de nos vies. Mais là, aujourd'hui, l'actualité nous ramenait à cette discussion plus ciblée là, sur ce que vivent les gens avec ces inondations. Sidney Ribault, donc, nouveau directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois l'animatrice Marie-Claude Barrette. Marie-Claude va nous parler un peu de la solitude des personnes âgées, mais plus largement aussi, on va ouvrir sur le fait de vivre des événements puis de se sentir seul. Il y a bien des gens seuls au Québec. Il y en a beaucoup dans la grande région de Montréal. Vous savez qu'à Montréal, une personne sur deux vit seule. Ça a beaucoup d'impact. Alors, c'est votre cas, si vous vous sentez un peu seul, des fois, tu vis seul, mais tu te sens entouré. Des fois, tu es entouré, mais tu te sens seul pareil. On va jaser de ça avec Marie-Claude. À tout de suite, tout le monde.